Chapitre 6. Le lendemain matin, Durtal se réveilla plus tard que de coutume. Avant même qu'il n'eût ouvert les yeux, il vit dans un subit éclair de cervelle défiler la sarabande des sociétés démoniaques dont Désermiès avait parlé. Un tas de clownesques mystiques qui se mettent la tête en bas et prient à pieds joints, se dit-il en bâillant. Il s'étira, regarda la fenêtre, aux vitres fleuries de lys en cristaux et de fougères en givre. Il rentra au plus vite ses bras dans le lit, sa cagnarda sous ses couvertures. « C'est un bon temps pour rester chez soi et travailler, » reprit-il. « Je vais me lever et allumer mon feu. Allons, un peu de courage. » Et au lieu de rejeter les couvertures, il les ramena plus haut sous le menton. « Ah, je sais bien que ça ne te plaît pas à toi que je fasse la grasse matinée, » dit-il, s'adressant à son chat, qui, étendu sur la courte pointe, à ses pieds, le regardait fixement avec des yeux très noirs. Cette bête était affectueuse et câline, mais maniaque et retorse. Elle n'admettait aucune fantaisie, aucun écart, entendait que l'on se levât et que l'on se couchât à la même heure, et très nettement elle faisait, lorsqu'elle était mécontente, passer dans la sombreur de son regard des nuances irritées sur le sens desquelles son maître ne se trompait point. Rentrait-il avant 11 heures du soir, elle l'attendait dans le vestibule, à la porte, griffait le bois, miaulait, avant même qu'il n'eût pénétré dans la pièce. Puis elle roulait de langoureuses prunelles d'or vert, se frottait contre ses culottes, sautait sur les meubles, se dressait tout debout, simulant le petit cheval qui se cabre, lui envoyait lorsqu'il s'approchait par amitié de grands coups de tête. Passé 11 heures, elle n'allait plus au-devant de lui, se bornait à se lever alors qu'il arrivait près d'elle, faisait encore le gros dos, mais ne caressait pas. Plus tard encore, elle ne bougeait et elle se plaignait et grognait s'il se permettait de lui lisser le dessus de la tête et de lui gratter le dessous du cou. Ce matin-là, elle s'impatienta de cette paresse, se mit sur son séant, se gonfla, puis s'approcha sournoisement et s'assit à deux pas de la figure de son maître, le dévisageant d'un œil atrocement faux, lui signifiant qu'il eût à déguerpir, à lui laisser la place chaude. Amusé par ce manège, Durtal ne bougea, regardant le chat à son tour. Il était énorme, commun et pourtant bizarre, avec sa robe mi-partie roussâtre comme la cendre du vieux coq et grise comme le poil des balais neufs, avec, çà et là, de petits floquets blancs tels que ces peluches qui voltigent sur les tisons morts. C'était un très authentique chat de gouttière, haut sur pattes, long, à tête de fauve, très régulièrement strié d'ondes d'ébène qui cerclait les pattes de bracelets noirs, allongeait les yeux par deux grands zigzags d'encre. « Malgré ton caractère de rabat-joie, de vieux garçon monomane et sans patience, tu es tout de même gentil, » fit Durtal, d'un ton insinuant, pour l'amadouer. « Puis, il y a assez longtemps que je te raconte ce que chacun se tait. Tu es l'évier de mon âme, toi, le confesseur inattentif et indulgent qui approuve, vaguement, sans surprise, les méfaits d'esprit qu'on lui avoue, afin de se soulager sans qu'il en coûte. » Au fond, c'est là ta raison d'être. Tu es l'exutoire spirituel de la solitude et du célibat. Aussi, je te gave d'attention et de soins. Mais cela n'empêche qu'avec tes bouderies, tu ne sois souvent, ainsi que ce matin, par exemple, insupportable. Le chat continuait de le dévisager, les oreilles toutes droites, cherchant à démêler dans les inflexions de la voix le sens des paroles qu'il écoutait. Il comprit sans doute que Durtal n'était point disposé à sauter du lit, car il s'en fût se réinstallé à son ancienne place, mais cette fois en tournant le dos. « Allons, » fit Durtal découragé, en inspectant sa montre, « il faut pourtant que je m'occupe de Gilles de Ré. » Et d'un bond, il s'élança sur ses culottes, tandis que le chat, brusquement mis debout, galopait sur les couvertures, se pelotonnait sans plus attendre dans les draps tièdes. Quel froid ! Et Durtal enfila un gilet de tricot, passa dans l'autre pièce pour allumer le feu. « On gèle !» murmurait-il. Heureusement que son logis était facile à chauffer. Il se composait simplement en effet d'une entrée, d'un minuscule salon, d'une minime chambre à coucher, d'un cabinet de toilette assez large, le tout, au cinquième, sur une cour très claire, pour 800 francs. Il était meublé sans aucun luxe. Du petit salon, Durtal avait fait un cabinet de travail couvert les murs de casiers en bois noir, bourrés de livres. Près de la fenêtre, une grande table, un fauteuil de cuir, quelques chaises. À la place de la glace sur la cheminée, tenant le panneau, du plafond à la tablette revêtue d'une vieille étoffe, il avait cloué un ancien tableau sur bois, représentant dans un paysage tourné, poussé dans les bleus au gris, dans les blancs au roux, dans les verts au noir, un ermite agenouillé sous une butte de branchage, près d'un chapeau de cardinal et d'un manteau de pourpre. Et tout le long de ce tableau, dans des parties entières sombrées dans des ténèbres d'oignons brûlés, d'inintelligibles épisodes se déroulaient, empiétant les uns sur les autres, entassant près du cadre en chêne noir des figures de Lilliputs dans des maisons de nains. Ici, le saint, dont Durtal avait vainement cherché le nom, franchissait en barque les boucles d'un fleuve aux eaux métalliques et plates. Là, il déambulait dans des villages grands comme un ongle, puis il disparaissait dans l'ombre de la peinture, et on le retrouvait plus haut dans une grotte, en Orient, avec des dromadaires et des ballots. On le perdait de nouveau de vue, et après un cache-cache plus ou moins court, il surgissait plus petit que jamais, seul, un bâton à la main, un sac sur le dos, montant vers une cathédrale inachevée, étrange. C'était un tableau d'un peintre inconnu, d'un vieux Hollandais qui s'était assimilé certaines couleurs, certains procédés, des maîtres d'Italie qu'il avait visités peut-être. La chambre à coucher avait un grand lit, une commode à ventre, des fauteuils, sur la cheminée une ancienne pendule et des flambeaux de cuivre, sur les murs une belle photographie d'un Botticelli du musée de Berlin. Une vierge dolente et robuste, ménagère et contrite, entourée d'anges figurés par de languissants jeunes hommes, tenant des cierges, aux cires enroulées comme des câbles, des garçonnes coquettes, aux longs cheveux piqués de fleurs, de dangereux pages mourant de désir devant l'enfant Jésus qui bénit, debout, près de la Vierge. Puis une estampe de Bruegel, gravée par Koch, les Vierges sages et les Vierges folles. Un petit panneau coupé au milieu par un nuage en tire-bouchon, flanqué aux deux coins d'anges bouffis sonnant les mains retroussées de la trompette, pendant qu'au centre du nuage même, un autre ange au nombril indiqué, sous une indolente robe, un ange sacerdotal et bizarre, déroule une banderole sur laquelle est écrit le verset de l'Évangile « Ecce sponsus venit, excite obvia mei ». Et au-dessous de la nuée, d'un côté les vierges sages, de bonnes flamandes, sont assises, dévident le lin, tournent en chantant des cantiques, auprès de lampes allumées, des rouées. De l'autre, sur l'herbe d'un pré, les vierges folles, quatre commères en liesse, se tiennent par la main et dansent en rond, tandis que la cinquième joue de la cornemuse et bat la mesure avec son pied près des lampes vides. Au-dessus de la nuée, les cinq vierges sages, mais effilées alors, charmantes et nues, brandissent les lumignons en flammes, montent vers une église gothique où le Christ les fait entrer. Cependant que de l'autre côté, les vierges folles, nues aussi, sur leur pâle toison, frappent vainement à la porte close, entonnant d'une main fatiguée des flambeaux morts. Durtal aimait cette vieille gravure qui avait une senteur de douce intimité dans les scènes du bas et dans celles du haut la benoîte naïveté des primitifs. Il y voyait réunis en quelque sorte, dans un même cadre, l'art d'un ostade épuré et celui d'un Thierry Boutz. En attendant que sa grille, dont le charbon craquait et commençait à grésiller comme une friture, devint rouge, il s'assit devant son bureau et tria ses notes. « Voyons, se dit-il en roulant une cigarette, nous en sommes au moment où cet excellent Gilles de Rais commence la recherche du grand œuvre. Il est facile de se figurer les connaissances qu'il possède sur la manière de transmuer les métaux en or. L'alchimie était déjà très développée un siècle avant qu'il ne naquît. Les écrits d'Albert le Grand, d'Arnaud de Villeneuve, de Raymond Lulle étaient entre les mains des hermétiques. Les manuscrits de Nicolas Flamel circulaient. Nul doute que Gilles, qui raffolait des volumes étranges, des pièces rares, ne les ait acquis. Ajoutons qu'à cette époque, l'édit de Charles V interdisant sous peine de la prison et de la hare les travaux spagyriques et que la bulle « Spondent pariter quas non exhibent » que le pape Jean XXII fulmina contre les alchimistes, était encore en vigueur. Ses œuvres étaient donc défendues et par conséquent enviables. Il est certain que Gilles les a longuement étudiées, mais de là à les comprendre, il y a loin. Ses livres constituaient en effet le plus incroyable des galimatias, le plus inintelligible des grimoires. Tout était en allégories, en métaphores cocasses et obscures, en emblèmes incohérents, en paraboles embrouillées, en énigmes bourrées de chiffres. Et en voilà un exemple, se dit-il, en prenant sur un des rayons de sa bibliothèque un manuscrit qui n'était autre que celui de l'Achmézaref, le livre du Juif Abraham et de Nicolas Flamel, rétabli, traduit et commenté par Eliphas Lévi. Ce manuscrit lui avait été prêté par des Hermiès qu'il avait découvert un jour dans d'anciens papiers. Il y a, soi-disant, là-dedans, la recette de la pierre philosophale, du grand élixir de quintessence et de teinture. Les figures ne sont pas précisément claires, se dit-il, en feuilletant les dessins à la plume rehaussée en couleur, représentant dans une bouteille, sous ce titre le coït chimique, un lion vert, la tête en bas, dans un croissant de lune. Puis, dans d'autres flacons, c'étaient des colombes, tantôt s'élevant vers le goulot, tantôt piquant une tête vers le fond, dans un liquide noir où ondulaient de vagues de carmin et d'or, parfois blanc et granulé de points d'encre, habité par une grenouille ou une étoile, parfois aussi laiteux et confus, ou brûlant en flammes de ponche à la surface. Eliphas Lévi expliquait de son mieux le symbole de ces volatiles en carafe. Mais il s'abstenait de donner la fameuse recette du grand magistère, continuait la plaisanterie de ses autres livres, où, débutant sur un ton solennel, il affirmait vouloir dévoiler les vieux arcanes et se taisait le moment venu, sous l'ineffable prétexte qu'il périrait s'il trahissait d'aussi rugissants secrets. Cette bourde, reprise par les pauvres occultistes de l'heure actuelle, aidait à masquer la parfaite ignorance de tous ces gens. En somme, la question est simple, se dit Durtal, en fermant le manuscrit de Nicolas Flamel. Les philosophes hermétiques ont découvert, et après avoir longtemps bafouillé la science contemporaine ne nie plus qu'ils aient raison, ils ont découvert que les métaux sont des corps composés et que leur composition est identique. Ils varient donc simplement entre eux, suivant les différentes proportions des éléments qui les combinent. On peut dès lors, à l'aide d'un agent qui déplacerait ces proportions, changer les corps les uns en les autres, transmuer par exemple le mercure en argent et le plomb en or. Et cet agent, c'est la pierre philosophale. Le mercure, non le mercure vulgaire, qui n'est pour les alchimistes qu'un sperme métallique avorté, mais le mercure des philosophes, appelé aussi le lion vert, le serpent, le lait de la Vierge, l'eau pontique. Seulement, la recette de ce mercure, de cette pierre des sages, n'a jamais été révélée. Et c'est sur elle que le Moyen-Âge, que la Renaissance, que tous les siècles, y compris le nôtre, s'acharnent. « Et dans quoi ne l'a-t-on pas cherché ?» se disait Durtal, en compulsant ses notes. « Dans l'arsenic, le mercure ordinaire, l'étain, dans les sels de vitriol, de salpêtre et de nitre, dans les sucs de la mercuriale, de la chélidoine et du pourpier, dans le ventre des crapauds à jeun, dans les urines humaines, dans les menstrues et le lait des femmes. » Or, Gilles de Rais devait en être là de ses explorations. Il est bien évident qu'à Tiffauges, seul sans l'aide d'initiés, il était incapable de tenter utilement des fouilles. À cette époque, le centre hermétique était en France, à Paris, où les alchimistes se réunissaient sous les voûtes de Notre-Dame et étudier les hiéroglyphes du charnier des innocents et le portail de Saint-Jacques de la Boucherie, sur lequel Nicolas Flamel avait, avant sa mort, écrit en de cabalistiques emblèmes la préparation de la fameuse pierre. Le maréchal ne pouvait se rendre à Paris sans tomber dans les troupes anglaises qui barraient les routes. Il choisit le moyen le plus simple, il appela les transmutateurs les plus célèbres du Midi et les fit amener à grands frais à Tiffauges. D'après les documents que nous possédons, nous le voyons faire construire le fourneau des alchimistes Latanor, acheter des pélicans, des creusets et des cornues. Il établit des laboratoires dans l'une des ailes de son château et s'y enferme avec Antoine de Palerne, François Lombard, Jean Petit, orfèvre de Paris. qui s'emploie jours et nuits à la coction du grand œuvre. Rien ne réussit. À bout d'expédients, ces améthystes disparaissent et c'est alors à Tiffauges un incroyable va-et-vient de souffleurs et d'adeptes. Il en arrive de tous les points de la Bretagne, du Poitou, du Maine, seuls ou escortés de noueurs d'aiguillettes et de sorcières. Gilles de Sillier, Roger de Briqueville, cousin et ami du maréchal, parcourent les environs, rabattent le gibier vers Gilles, tandis qu'un prêtre de Saint-Chapelle, Eustache Blanchet, part en Italie, où les manieurs de métaux abondent. En attendant, Gilles de Ré, sans se décourager, continue ses expériences qui toutes ratent. Il finit par croire que, décidément, les magiciens ont raison, qu'aucune découverte n'est sans l'aide de Satan possible. Et une nuit, avec un sorcier arrivé de Poitiers, Jean de la Rivière, il se rend dans une forêt qui avoisine le château de Tiffauges. Il demeure avec ses serviteurs, Henri et Poitou, sur la lisière du bois où le sorcier pénètre. La nuit est lourde et sans lune. Gilles s'énerve à scruter les ténèbres, à écouter le pesant repos de la campagne muette. Ses compagnons, terrifiés, se serrent l'un contre l'autre, frémissent et chuchotent au moindre vent. Tout à coup, un cri d'angoisse s'élève. Ils hésitent, s'avancent en tâtonnant dans le noir, aperçoivent en une lueur qui saute la rivière, exténuée, tremblant, hagard, près de sa lanterne. Il raconte à voix basse que le diable a surgi sous la forme d'un léopard, mais qu'il a passé auprès de lui sans même le regarder, sans rien lui dire. Le lendemain, ce sorcier prend la fuite, mais un autre arrive. C'est un trompette du nom de Duménil. Il exige que Gilles signe de son sang une cédule dans laquelle il s'engage à donner au diable tout ce qu'il voudra, hormis sa vie et son âme. Mais bien que pour aider au maléfice, Gilles consente à faire chanter dans sa chapelle à la fête de la Toussaint l'office des damnés, Satan n'apparaît pas. Le maréchal commençait à douter du pouvoir de ses magiciens quand une nouvelle opération qu'il tenta le convainquit que parfois le démon se montre. Un évocateur dont le nom est perdu se réunit à Tiffauges dans une chambre avec Gilles et de Sillé. Sur le sol, il trace un grand cercle et commande à ses deux compagnons d'entrer dedans. Sillé refuse. Poigné par une terreur qui ne s'explique pas, il se met à frémir de tous ses membres, se réfugie près de la croisée qu'il ouvre, murmure tout bas des exorcismes. Gilles, plus hardi, se tient au milieu du cercle. Mais aux premières conjurations, il frissonne à son tour et veut faire le signe de la croix. Le sorcier lui ordonne de ne pas bouger. À un moment, il se sent saisi à la nuque. Il s'effare, vacille, supplie Notre-Dame de la Vierge de le sauver. L'évocateur furieux le jette hors du cercle. Il s'élance par la porte, de Sillé par la fenêtre. Il se retrouve en bas, reste béant, car des hurlements se dressent dans la chambre où le magicien opère. Un bruit d'épée tombant à coups drus et pressé sur une couette se fait entendre, puis des gémissements, des cris de détresse, l'appel d'un homme qu'on assassine. Épouvanté, il demeure aux écoutes, puis, quand le vacarme cesse, il se hasarde, pousse la porte, trouve le sorcier étendu sur le parquet, roué de coups, le front fracassé, dans des flots de sang. Il l'emporte. Gilles, plein de pitié, le couche dans son propre lit, l'embrasse, le pense, le fait confesser, de peur qu'il ne trépasse. Il reste quelques jours entre la vie et la mort, finit par se rétablir, et il se sauve. Gilles, désespéré d'obtenir du diable la recette du souverain magistère, quand Eustache Blanchet lui annonce son retour d'Italie. Il amène le maître de la magie florentine, l'irrésistible évocateur des démons et des larves, François Prelati. Celui-là stupéfia Gilles. Il avait à peine 23 ans et il était l'un des hommes les plus spirituels, les plus érudits, les plus raffinés du temps. Qu'avait-il fait avant de venir s'installer à Tiffauges et d'y commencer avec le maréchal la plus épouvantable série de forfaits qui se puisse voir? Son interrogatoire dans le procès criminel de Gilles ne nous fournit pas des renseignements bien détaillés sur son compte. Il était né dans le diocèse de Lucques, à Pistoie. avait été ordonné prêtre par l'évêque d'Arezzo. Quelque temps après son entrée dans le sacerdoce, il était devenu l'élève d'un thaumaturge de Florence, Jean de Fontenelle, et il avait souscrit un pacte avec le démon nommé Baron. À partir de ce moment, cet abbé, insinuant et disert, docte et charmant, avait dû se livrer au plus abominable des sacrilèges et pratiquer le rituel meurtrier de la magie noire. Toujours est-il que Gilles s'éprend de cet homme. Les fourneaux éteints se rallument. Cette pierre des sages que Prélati a vue, flexible, cassante, rouge, sentant le sel marin calciné, il la cherche à eux deux, furieusement, en invoquant l'enfer. Leurs incantations demeurent vaines. Gilles, désolé, les redouble. Mais elles finissent par tourner mal. Un jour, Prélati manque d'y laisser ses os. Une après-midi, Eustache Blanchet aperçoit dans une galerie du château le maréchal tout en larmes. Des plaintes de suppliciés s'entendent à travers la porte d'une chambre où Prélati évoque le diable. « Le démon est là qui bat mon pauvre François. Je t'en supplie, entre !» s'écrie Gilles. Mais Blanchet, effrayé, refuse. Alors Gilles se décide. Malgré sa peur, il va forcer la porte quand elle s'ouvre et Prélati trébuche, sanglant dans ses bras. Il put, soutenu par ses deux amis, gagner la chambre du maréchal où on le coucha, mais les coups qu'il avait reçus furent si violents qu'il délira. La fièvre s'accrut. Gilles, désespéré, s'installa près de lui, le soigna, le fit confesser, pleura de bonheur lorsqu'il ne fut plus en danger de mort. Ce fait qui se renouvelle du sorcier inconnu et de Prélati, dangereusement blessé en une chambre vide dans des circonstances identiques, c'est tout de même étonnant, se disait Durtal. Et les documents qui relatent ces faits sont authentiques. Ce sont les pièces mêmes du procès de Gilles. D'autre part, les aveux des accusés, les dépositions des témoins concordent, et il est impossible d'admettre que Gilles, que Prélati, ait menti. Car, en confessant ces invocations sataniques, ils se condamnaient eux-mêmes à être brûlés vifs. S'ils avaient encore déclaré que le malin leur était apparu, qu'ils avaient été visités par des succubes, s'ils avaient affirmé avoir entendu des voix, senti des odeurs, touché même un corps, l'on pourrait admettre des hallucinations semblables à celles de certains sujets de Bicêtre. Mais ici, il ne peut y avoir détraquement des sens, vision morbide, car les blessures, la marque des coups, le fait matériel, visible et tangible est là. On peut se figurer combien le mystique qu'était Gilles de Rais dut croire à la réalité du diable, après avoir assisté à de pareilles scènes. Malgré ses échecs, il ne pouvait donc douter, et Prélati, à moitié assommé, devait douter moins encore, que s'il plaisait à Satan, il trouverait enfin cette poudre qui les comblerait de richesses et les rendrait même presque immortels. Car à cette époque, la pierre philosophale passait non seulement pour transmuer les métaux vils tels que l'étain, le plomb, le cuivre, en des métaux nobles comme l'argent et l'or, mais encore pour guérir toutes les maladies et prolonger sans infirmité la vie jusqu'aux limites jadis assignées aux patriarches. « Quelle singulière science !» ruminait Durtal en relevant la trappe de sa cheminée et en se chauffant les pieds. Malgré les railleries de ce temps, qui, en fait de découvertes, n'exhume que des choses déjà perdues, la philosophie hermétique n'est pas absolument vaine. Sous le nom d'isomérie, le maître de la chimie contemporaine, Dumas, reconnaît les théories des alchimistes exactes, et Berthelot déclare que nul ne peut affirmer que la fabrication des corps réputés simples soit impossible a priori. Puis il y a des actes contrôlés, des faits certains, en sus de Nicolas Flamel, qui semble bien, en effet, avoir réussi le grand œuvre au XVIIe siècle, le chimiste Van Helmont reçoit d'un inconnu un quart de grain de pierre philosophale et avec ce grain, il transforme 8 onces de mercure en or. À la même époque, Helvétius, qui combat le dogme des spagyriques, reçoit également d'un autre inconnu une poudre de projection avec laquelle il convertit un lingot de plomb en or. Helvétius, n'était pas précisément un jobard, et Spinoza, qui vérifia l'expérience et en attesta l'absolue véracité, n'était cependant lui non plus ni un gobe-mouche ni un béjaune. Que penser enfin de cet homme mystérieux, de cet Alexandre Seton, qui, sous le nom de cosmopolite, parcourut l'Europe, opérant devant les princes, en public, transformant tous les métaux en or, emprisonné par Christian II, lecteur de Saxe, cet alchimiste, dont le mépris des richesses était avéré, car jamais il ne gardait l'or qu'il créait et il vivait comme un pauvre en priant Dieu, cet alchimiste supporta tel qu'un saint le martyre. Il se laissa battre de verges, percer des pointes, refusa de livrer un secret qu'il prétendait, ainsi que Nicolas Flamel, tenir du Seigneur même. Et dire qu'à l'heure actuelle, ses recherches se continuent. Seulement la plupart des hermétiques renient les vertus médicales et divines de la fameuse pierre. Ils pensent simplement que le grand magistère est un ferment qui, jeté dans les métaux en fusion, produit une transformation moléculaire semblable à celle que les matières organiques subissent lorsqu'à l'aide d'une levure, elles fermentent. Desermiès, qui connaît ce monde-là, soutient que plus de 40 fourneaux alchimiques sont à présent allumés en France, et que dans le Hanovre, dans la Bavière, les adeptes sont plus nombreux encore. Ont-ils retrouvé l'incomparable secret des anciens âges? C'est malgré certaines affirmations peu probable, puisque personne ne fabrique par artifice ce métal dont les origines sont si bizarres, si douteuses, qu'en un procès qui eut lieu au mois de novembre 1886 à Paris, entre des bailleurs de fonds et M. Pope, le constructeur des horloges pneumatiques de la ville, des chimistes de l'école des mines, des ingénieurs, déclarèrent à l'audience que l'on pouvait extraire l'or des pierres meulières, si bien que les murs qui nous abritent seraient déplacés et que des pépites se cacheraient dans les mansardes. C'est égal, reprit-il en souriant, ces sciences-là ne sont pas propices. Car il songeait à un vieillard qui avait installé au cinquième étage d'une maison de la rue Saint-Jacques un laboratoire d'alchimistes. Cet homme, nommé Auguste Redouté, travaillait toutes les après-midi à la Bibliothèque nationale sur les œuvres de Nicolas Flamel. Le matin et le soir, il poursuivait près de ses fourneaux la recherche du grand œuvre. Le 16 mars de l'an dernier, il sortit de la bibliothèque avec un voisin de table et il lui déclara en route qu'il était enfin possesseur du fameux secret. Arrivé dans son cabinet, il jeta des morceaux de fer dans une cornue, fit une projection, obtint des cristaux couleur de sang. L'autre examina les selles et plaisanta. Alors l'alchimiste, devenu furieux, se rua sur lui, le frappa à coups de marteau, dut être garrotté et emporté séance tenante à Sainte-Anne. Au XVIe siècle, dans le Luxembourg, on rôtissait les initiés dans des cages de fer. Le siècle suivant, en Allemagne, on les branchait, vêtus d'une robe de paillon, à des poteaux dorés. Maintenant, qu'on leur fiche la paix, ils deviennent fous. Décidément, cela finit tristement, conclut Durtal. Il se leva pour aller ouvrir la porte, car la sonnette tintait. Il revint avec une lettre apportée par le concierge. Il l'ouvrit. Qu'est-ce que cela, fit-il, étonné, lisant. Monsieur, je ne suis ni une aventurière, ni une femme d'esprit se grisant de causeries, comme d'autres de liqueurs et de parfums, ni une chercheuse d'aventures. Je suis encore moins une vulgaire curieuse, tenant à constater si un auteur a le physique de son œuvre, ni rien, enfin, de ce que vous fournirez le champ des suppositions possibles. La vérité, c'est que je viens de lire votre dernier roman. Elle y a mis du temps, car voilà plus d'une année qu'il a paru, murmura Durtal. Douloureux comme les battements d'une âme qu'on emprisonne. Ah, zut, passons les compliments, il porte à faux du reste, comme toujours. Et maintenant, monsieur, bien que je pense qu'il y ait infailliblement folie et bêtise à vouloir réaliser un désir, voulez-vous qu'une de vos sœurs en lassitude vous rencontre un soir à l'endroit que vous désignerez, après quoi nous retournerons chacun dans notre intérieur, dans l'intérieur des gens, destinés à tomber parce qu'ils ne sont pas placés dans l'alignement. Adieu, monsieur, soyez assuré que je vous tiens pour quelqu'un dans ce siècle de sous-effacés. ignorant si ce billet aura une réponse, je m'abstiens de me faire connaître. Ce soir, une bonne passera chez votre concierge et demandera s'il y a une réponse au nom de Madame Maubel. Fit Durtal en repliant la lettre. Je la connais, celle-là. Ce doit être une de ces très anciennes dames qui placent des lots oubliés de caresses, des varandames. 45 ans pour le moins. Sa clientèle se compose ou de petits jeunes toujours satisfaits, s'ils ne payent point, ou de gens de lettres peu difficiles à contenter, car la laideur des maîtresses dans ce monde-là est proverbiale. À moins que ce ne soit une simple mystification. Mais de qui et dans quel but? Puisque je ne connais plus maintenant personne. Dans tous les cas, il n'y a qu'à ne pas répondre. Mais, malgré lui, il rouvrit cette lettre. Voyons, qu'est-ce que je risque, se dit-il. Si cette dame veut me vendre un trop vieux cœur, rien ne m'oblige à l'acquérir. J'en serai quitte pour aller à un rendez-vous. Oui, mais où le lui fixer, ce rendez-vous? Ici, non. Une fois chez moi, l'affaire se complique, car il est plus difficile de mettre une femme à la porte que de la lâcher dans un coin de rue. Si je lui indiquais justement l'angle de la rue de Sèvres et de la rue de la Chaise, le long du mur de l'abbaye au bois, c'est solitaire, et puis c'est à deux pas d'ici. Voyons. Commençons d'abord par lui répondre. Mais vaguement, sans indiquer de lieu précis, nous résoudrons cette question-là plus tard, après sa réponse. Et il écrivit une lettre dans laquelle il parlait lui aussi de sa lassitude d'âme, déclarait cette entrevue inutile, car il n'attendait plus rien ici-bas d'heureux. Je vais ajouter que je suis souffrant, cela fait toujours bien, et puis ça peut excuser au besoin des défaillances, se dit-il, en roulant une cigarette. Là, ça y est, ce n'est pas bien encourageant pour elle, oh, et puis, voyons quoi encore. Et pour éviter le futur crampon, je ferai pas mal de lui laisser entendre aussi qu'une liaison sérieuse et soutenue avec moi n'est pas, pour des raisons familiales, possible. Oh, et en voilà assez pour une fois. Il plia sa lettre et griffonna l'adresse. Puis il la tint entre ses doigts et réfléchit. Décidément, c'est une bêtise de répondre. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut prévoir dans quel guépier mènent ces entreprises? Il savait pourtant bien que, quelle qu'elle soit, la femme est un haras de chagrin et d'ennui. Si elle est bonne, elle est souvent par trop bête, ou alors elle n'a pas de santé, ou bien encore elle est désolamment féconde dès qu'on la touche. Si elle est mauvaise, l'on peut s'attendre en plus à tous les déboires, à tous les soucis, à toutes les hontes. Quoi qu'on fasse, on écope. Il se régurgita les souvenirs féminins de sa jeunesse, se rappela les attentes, les mensonges, les carottes et les cocuages, l'impitoyable saleté d'âme des femmes encore jeunes. Non, non, décidément, ce n'est plus de mon âge, ces choses-là. Oh, et puis, pour ce que j'ai besoin maintenant des femmes. Mais, malgré tout, cet inconnu l'intéressait. Qui sait? Elle est peut-être jolie, elle est peut-être aussi pas extraordinaire, pas trop rosse, rien ne coûte de vérifier. Et il relut la lettre. Il n'y a pas de faute d'orthographe, l'écriture n'est point commerciale, les idées sur mon livre sont médiocres, mais dame, on ne peut pas lui demander de s'y connaître. Ça sent l'héliotrope, reprit-il en flairant l'enveloppe. Ah, au petit bonheur! Et en descendant pour déjeuner, il déposa sa réponse chez le concierge.